L'imprévu a du charme, et ça tombe bien, puisque la tribu te propose tout de suite une émission spéciale.
Bonjour à tous, nous sommes sur les radios Tribu et Prune. Tout au long de cette émission, nous allons vous suivre avec Ismaël et moi, Camilla. Nous faisons cette radio dans le cadre du réseau jeunes national qui est une semaine où une centaine de jeunes des centres sociaux se réunissent pour débattre sur un thème. Le thème de cette année, c'est l'éducation. Alors nous allons un peu vous présenter tout ce qu'on a fait au long de cette semaine. Je vais vous présenter quelques-uns de nos invités. Je vous laisse vous présenter.
Alors moi c'est Cathy, j'ai 17 ans et je viens d'un centre social qui est situé dans le 64. Et donc voilà, c'est mon premier réseau jeune national cette année.
Alors tu vas faire quoi dans l'émission ?
Je vais présenter le porteur de parole et on va citer quelques phrases tout au long de l'émission. Voilà.
Donc ça veut dire que tu as un coéquipier qui te soutient ?
C'est moi, oui.
Présente-toi s'il te plaît.
Donc moi c'est Brian, j'ai 16 ans, je fais partie d'un centre social, mais pas que, aussi d'une association qui se nomme Terminatech et qui se situe en Dordogne.
Alors moi c'est Ilham, j'ai 18 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'une chronique concernant l'accueil éducatif.
Je m'appelle Maëva, j'ai 14 ans et aujourd'hui je vais interviewer Souleymane qui fait différents métiers en rapport avec l'éducation.
Moi c'est Antoine, j'ai 14 ans, je viens de Dordogne comme Brian. Je fais partie d'un centre social sur Bergerac et j'ai aussi créé une junior association de sensibilisation à la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, je vais interviewer deux jeunes ainsi que Roman de la Fédération nationale des centres sociaux pour parler de pédagogie alternative et de lycées expérimentaux.
Alors moi je m'appelle Ismaël, j'ai 15 ans et je viens du centre socioculturel de l'Allée Verte à Nantes, dans la Loire-Atlantique et je serai animateur avec Camilla.
Nous allons laisser les porte-paroles un peu parler.
Alors, le porteur de parole, c'est simple. Le principe, c'est de poser une question ou une affirmation à des passants dans la rue et de recueillir leurs témoignages, leurs points de vue. Le but, donc, voilà, c'est d'échanger avec les inconnus pendant quelques minutes sur un sujet qui nous tient à cœur. Et donc, dans le cadre du réseau jeune national, mardi après-midi, on est allé sur la jetée de Saint-Nazaire et on a posé notamment deux questions en rapport avec les éducations. La première, c'est « Qui est-ce qui vous éduque ?» Et la deuxième, « Votre éducation, si c'était à refaire ?» Et donc, on va tout de suite commencer avec un point de vue d'un passant.
Donc, je vais vous donner le point de vue d'un passant qui se nomme Jean-Claude et qui a 78 ans. Il a dit « L'éducation, c'est montrer l'exemple, c'est donner l'envie. » Également, à notre passage, cette fois-ci, une personne qui se nomme Alice et qui a 19 ans. « Je serais parti à l'école dans une bonne filière. Il n'y a pas que mes parents qui m'ont éduqué. Il y a aussi mes amis et les gens que je fréquente. » Et une dernière phrase, c'est l'expérience de la vie de Lydia qui a 58 ans.
Qu'est-ce que vous pensez de ces phrases ?
Moi je pense que c'est une bonne chose. En effet, l'éducation, elle se fait pas que à travers l'école. Elle se fait aussi par nos parents, nos amis et voilà, tous nos échanges, nos interactions avec que ce soit des inconnus ou des personnes qu'on connaît, ça peut quand même participer à notre éducation, ça nous apprend toujours des choses et voilà.
Ben, nous allons rebondir sur ce que tu viens de dire. Maëva va interviewer Souleymane, donc je te laisse la parole.
Alors bonjour, aujourd'hui je vais interviewer Souleymane. On a choisi cette personne puisqu'il est acteur dans l'éducation des jeunes, puisqu'il travaille dans plusieurs métiers qui ont rapport avec l'éducation. Bonjour Souleymane, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour, moi c'est Souleymane, je suis animateur au Centre Social Éco, j'ai 26 ans. Et je suis aussi éducateur dans des foyers dans le nord de la France, ainsi que surveillant, donc AUD, dans un collège qui se situe à Roubaix aussi, qui s'appelle Rosa Parks.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos différents métiers qui ont tous un lien avec notre thématique, les éducations ?
Oui, dans les différents métiers que j'ai effectués, que j'effectue encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis acteur du collège. Donc du coup, mon rôle au sein du collège, c'est de sécuriser. Donc je suis AUD, plus connu sous le nom de surveillant. Et au sein du foyer, c'est aussi, je suis éducateur, en tant qu'éducateur sportif. Donc j'interviens toujours sur les phases de sport et en tant qu'éducateur classique.
Pensez-vous que tout le monde a les mêmes droits et qu'ils peuvent accéder aux mêmes éducations ?
Oui, absolument. Je pense que tout le monde a les mêmes droits. Et c'est un devoir aussi pour moi de réclamer ses droits. Et tout le monde a le droit à la même éducation, dans le sens où c'est important de faire valoir ce qu'on est. Et je pense qu'il faut essayer par la suite de mettre tout le monde à la même échelle, dans le sens où il faut que tous les jeunes aient accès à l'éducation qu'ils souhaitent par la suite, que ce soit dans l'école ou autre.
Est-ce que vous pensez que tous les élèves aujourd'hui ont accès aux mêmes choses ou pas du tout ?
Je pense que par région, par collège, on n'a pas tous accès aux mêmes choses, ce qui est dommage. Ça peut être une inégalité de par la localisation du collège, de par les moyens du collège. Et je pense que tout le monde n'a pas accès aux mêmes choses. Et tout le monde devrait avoir le droit, en 2022, d'avoir accès aux mêmes choses.
Quelles ont été vos réussites au travers de vos métiers en rapport avec l'éducation ?
Les réussites dont je suis fier à travers de ce métier, c'est de voir des jeunes grandir, devenir mes collègues aussi, et devenir eux-mêmes des exemples. Donc pour moi, c'est la plus belle réussite que j'ai eue de par ce métier.
Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous d'avoir participé à cette interview.
Merci à vous.
Ben merci beaucoup à ces deux intervenants qui sont Maëva et Souleymane. Nous sommes toujours sur les radios de Prune et de la Tribu. Nous débattons toujours sur ce même thème, l'éducation. Peut-être pour approfondir ce sujet, nous allons laisser les porteurs de parole lire quelques phrases qu'ils ont entendues.
Donc je vais vous lire une phrase qui vient de Mathis, qui a 28 ans. Mes parents étaient trop protecteurs. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne sais pas encore faire tout seul. Et une autre phrase de Stéphane, qui lui a 26 ans. Il n'y a rien à refaire, ma mère m'a bien éduqué. Être poli, dire bonjour à tout le monde, le respect. Il faut bien, sinon on prenait des coups quand on faisait des bêtises.
Avec les échanges que nous avons faits cette semaine, nous voulions débattre autour de cette question, qui est donc l'éducation est utile et efficace pour réduire les inégalités.
Nous allons écouter un petit micro-trottoir pour un peu lancer le débat aussi entre nous.
Non, parce que je pense que l'éducation, c'est pas uniquement les parents. On a un environnement éducatif aussi. Il y a l'école, il y a les gens autour de nous. Donc on tire des éléments d'éducation finalement un peu partout. Mais je pense que le premier rôle, c'est quand même les parents. On s'aperçoit que quand les parents sont défaillants, il y a de gros problèmes quand même. Hein, l'enfant se réfère à ses parents d'abord. Et ensuite, c'est complété par l'école, les amis, les copains. Mais je pense que non, hein, c'est pas possible.
Avec ce micro-trottoir, on a bien vu qu'il y a différents types d'éducation. Il y a l'éducation du coup des parents, il y a l'éducation de l'école et de tous les gens qu'on rencontre au fil de notre vie. Alors, est-ce que vous trouvez que ces éducations réduisent les inégalités et est-ce que les moyens mis en place sont efficaces ou pas ?
On est confronté, on va dire, à créer des relations tout au long de notre vie. Et du coup, l'éducation, elle commence dès petit par rapport à la socialisation primaire avec nos familles. Et plus on grandit et plus on va rencontrer de nouvelles personnes. Et l'éducation, elle va se créer tout au long de notre vie. Donc, on va dire, c'est un chemin continu et on en apprend chaque jour, on s'instruit chaque jour par rapport à ça.
Est-ce que tu trouves que tout le monde est égaux déjà ?
D'un côté, je pense que ça réduit certaines inégalités, mais pas toutes, parce qu'on ne pourra jamais tous être égaux, sachant qu'on part pas tous sur le même niveau par rapport à nos couleurs de peau, à nos origines, à notre sexualité, etc. Et donc, il y aura toujours des inégalités, même si la société elle essaye de faire en sorte que tout le monde soit égaux, même s'il y a plusieurs aides, etc. Je pense qu'on n'arrivera jamais à tous être égaux par rapport aux discriminations, aux préjugés, etc.
Moi, je pense que l'école est faite pour avoir un esprit critique. C'est-à-dire que ce n'est pas d'écouter une seule idée et d'être tranché dessus, c'est pouvoir écouter plusieurs idées et après de faire la part des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que les inégalités, et les égalités d'ailleurs, on peut pas les combattre, mais on peut les réduire et comprendre pourquoi ces inégalités existent et comment les réduire et comment elles fonctionnent. Voilà
le moins important, moi, je pense, dans la question, c'est le mot réduire, parce que c'est ça, les supprimer, c'est pas possible, c'est utopique, même si ça serait vraiment génial qu'on vive dans un monde comme ça, mais aujourd'hui ça, c'est compliqué que ça fonctionne de cette manière-là. Et en comprenant ce qui nous entoure, en comprenant les inégalités, les différences et les profils de chacun, c'est une richesse d'être différent, on peut engager des chemins dans nos éducations, soit de l'éducation populaire, de l'éducation à l'école, l'éducation familiale, pour réduire ces inégalités.
D'accord, donc en fait, toi, ce serait plutôt faire avancer la pensée de chacun,
oui,
plutôt que les gestes. Parce qu'il y a aussi, par exemple, tout ce qui est handicap, qui peut aussi, qui est quelque chose qui est fixe. On est handicapé, on pourra pas le changer. Donc en fait, il y a peut-être aussi des structures à mettre en place pour euh, pouvoir, euh,
pour... En fait, je pense que encore une fois, ça fait partie de l'éducation et donc à apprendre des petits ce qui concerne les valeurs et les normes de chacun. Et en fait, si certes la famille est, on va dire, le premier pilier de l'éducation puisque on grandit dedans, mais l'école aussi a son, je sais pas comment expliquer,
mais à son rôle.
Voilà, l'école aussi doit faire en sorte d'apprendre les valeurs et les normes de la vie, parce que si les parents, ils apprennent des normes contre la société, donc par rapport aux discriminations, préjugés, etc., bah, il y aura toujours des inégalités, même si l'école fait son taf dans ce domaine-là.
Après, en effet, oui, je pense que l'école et la famille jouent un très grand rôle dans l'éducation. Il y a aussi mais voilà, chaque interaction avec quelqu'un qu'on rencontre, ou voilà, qui nous permettent aussi d'avancer, de se poser des questions, enfin de... entamer peut-être une introspection et enfin de réfléchir par rapport à notre éducation et celle peut-être de nos enfants plus tard, etc.
D'accord. Et donc du coup, vous pensez que c'est plutôt les jeunes à agir pour que la pensée se modifie, ou est-ce que ce serait vraiment collectivement, ou ce serait que les adultes qui nous un peu inculquent ça, ou est-ce que ce serait aussi les jeunes qui inculquent quelque chose aux adultes?
À mon avis, pardon, c'est un peu les deux. Voilà, les enfants peuvent bien apprendre aussi aux adultes. Enfin, il n'y a pas de tabou à voir. Et comme les adultes nous apprennent des choses, nous éduquent aussi quand on est un peu plus petit, on va dire. Même si, voilà, tout au long de la vie, on apprend toujours des choses.
Je rejoins Cathy sur ce qu'elle dit, car tout au long de notre vie, on n'apprend pas, on peut pas apprendre tout seul. On apprend par rapport à des échanges, en créant des relations, en faisant des rencontres, etc. Et donc, c'est pas tout le temps les personnes adultes qui apprennent aux petits, ou le contraire. Exemple, si une maman ne sait pas parler français car elle est émigrée, son enfant peut très bien lui apprendre à parler français, et au contraire, elle peut très bien lui apprendre à parler sa langue maternelle ou quoi que ce soit. Donc, l'éducation, ça se fait vraiment dans les deux sens.
C'est pas forcément les grands qui apprennent aux petits, ça peut être les petits qui apprennent aux grands.
Mais toujours dans le respect de chacun, dans le fait de se dire, oui, il est plus petit que moi, mais il a des choses à m'apporter, et de pas être dans le dédain, le mépris, et d'être hautain, de se dire voilà, il a rien à m'apporter, je sais déjà qui je suis construit, et c'est pas un gamin de 8 ans qui va me dire ce que j'ai à faire.
Chacun peut apporter la petite pièce du puzzle, quoi.
Oui.
C'est ça. Donc du coup, vous, ce serait plutôt du coup quelque chose de respect entre chaque individu, en fait, qui ferait avancer les inégalités et faire réduire, comme tu disais tout à l'heure, pas enlever les inégalités, mais réduire au maximum.
Et puis aussi, on ne peut pas changer toute une génération qui, pendant 40 ans, a inculqué une idée, et après, ce serait contre nature. Et ce qu'il faudrait faire, c'est que les jeunes puissent... Enfin, ce serait commencer dès le début, dès la jeunesse, et changer la manière de penser des gens dès leur jeunesse, et pas dès qu'ils sont assez âgés.
Nous allons peut-être écouter l'avis d'une personne extérieure au réseau Jeunes et un peu plus âgée que nous, pour le coup.
Parce que c'est là, je pense que c'est la base première de l'individu. Si on n'éduque pas les gens, s'ils n'ont pas une certaine éducation, c'est l'anarchie complète, quoi. Moi, je pense que c'est de mieux en mieux. Je pense qu'ils prennent plus conscience que la génération... Je ne parle pas de ma génération qui est... Mais la génération d'avant, il y a eu trop de laxisme, justement. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est en train d'inculquer aux jeunes un peu plus tout ce qui est sur la faune, la fleur, l'éducation. Je pense que oui, moi, je rencontre beaucoup de jeunes et franchement, je leur dis merci parce que... Il y a une certaine éducation qui revient, justement.
Vous voulez redébattre sur ce qu'elle vient de dire ?
L'éducation peut créer des inégalités, parce qu'on l'avait vu pendant le confinement. On n'est pas tous égaux par rapport à l'école, à la maison. Il y en a certains qui n'avaient, par exemple, pas d'ordinateur, et les professeurs qui n'aidaient pas forcément, ils ne pouvaient pas assister aux visios de toutes les classes, et forcément, ça crée des inégalités, ça crée des baisses de niveau scolaire, et forcément,
Donc c'est plutôt matériel, du coup, c'est plutôt c'est des inégalités vis-à-vis de l'argent et
besoins du matériel.
Exactement. C'est vrai que le confinement nous a tous un peu marqués, et je trouve quand même que maintenant la vie est quand même plus heureuse, entre guillemets. Voilà. Donc je pense que nous allons rester sur ça. Vas-y.
Un dernier mot, mais absolument sans rapport. Il y a le mot inégalité dans la phrase et on peut peut-être l'interpréter d'une autre manière. Inégalité, ça peut aussi être une richesse d'un certain côté parce que si on est différent, si on a d'autres valeurs, d'autres idéaux et d'autres choses qui nous sont enseignées à la maison ou dans les groupes auxquels on peut appartenir, ça peut être un plus pour partager après aux autres. Et donc, ça peut aussi faire... les inégalités, c'est aussi quelque chose de positif finalement parce que pas les inégalités au sens discrimination, surtout pas, mais voilà, ce fait d'être, de pas avoir les mêmes origines, les mêmes orientations au départ, ça peut créer quelque chose d'assez intéressant.
De toute façon, on s'enrichit de nos
différences.
Exactement, et des personnes avec qui on va rencontrer. Là, on vit dans le passé, dans le futur et dans le présent aussi en même temps. Bon, ben, nous allons rester sur ce point positif où tout le monde est égaux et on avance pour que tout le monde soit égaux et enrichisse notre vie dans chaque instant. Alors, je vous propose une petite pause musicale. Pam, pam, panam, pam.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale aux mi-pattes métalliques roulant dans ses bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu, la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique. À force de pression constante, la tension va cesser, tomber par imprudence. Des gens qui s'aiment sans gare se laissent tomber. Je démontre un escargot à la coquille dure à pénétrer, mais le monstre est beau. À chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, 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 Pam, 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 Panam, Panam, Panam. Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus. Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures. Le temps se divise par quatre dans son œsophage. C'est lui la bête, mais c'est nous qui sommes en cage. Sans changer de taille, il grossit au risque de serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique. À part sur l'avenue, tu frappes à 10 mètres sans toucher le mur ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule. Après tout, que serait Batman? Après tout, que serait Batman sans Gotham? Quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent, c'est à cause des gratte-ciels que les nuages éternuent. Alors l'orage gronde et la foudre précède. Pam pam panam, 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 pam, pam pam panam, panam, panam. Même dans ces rares passages, le soleil sait se faire beau. La chaleur accueillie, tel un joli fardeau. Magistral au mois de mai, la joie devient capitale. À demi-nuit sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables. Les quais sont florissants, inondés de coulées vertes. Chaque rencontre se change en amicale découverte. Agrippés aux ailes des bateaux mouches, dans les parcs on pique-nique en chantant. Panam, 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 pam, 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 panam, panam, pam, panam, pam, panam, pam, panam, pam, panam, pam, panam, pam, panam.
La tribu
106.9 face à Nazaire.
Alors du coup, on est toujours sur la radio Prune et Tribu sur le sujet du réseau jeune. Et donc nous allons vous présenter Ilham qui va nous parler de l'accueil éducatif.
Alors qu'est-ce que c'est exactement l'accueil éducatif ?
Alors, comme je vous disais, je m'appelle Ilham et je suis en formation d'éducateur spécialisé. Et donc, cette année, on a vu l'accueil éducatif et donc comment les professionnels, enfin la posture professionnelle, enfin la posture que les professionnels, pardon, doivent aborder avec leur public et plus précisément avec les jeunes.
Que penses-tu de l'accueil éducatif dans les établissements ?
Alors, l'accueil éducatif dans les établissements, ça dépend de quel établissement. Exemple, je sais que parfois dans les écoles, enfin d'après ma propre expérience, l'accueil éducatif, il n'est pas très bien adapté par rapport aux jeunes. Exemple, dans les lycées, lorsque nous allons voir notre CPE par rapport à quelconque sujet, on a tendance à plutôt être devant le bureau et elle derrière. Et j'ai vraiment l'impression que, on va dire, c'est... un peu de la dominance, enfin je vois pas ça vraiment genre comme de la dominance parce que pour moi c'est vraiment un mot péjoratif, mais je vois comme s'il y avait un peu un abus de pouvoir et donc le fait que nous soyons soumis on va dire un peu aux professionnels.
D'accord, et quelles seraient les solutions pour remédier un peu à ce problème ?
Je sais que moi, dans ma formation professionnelle, on voit comment accueillir un jeune lorsqu'il vient dans nos structures. Et ce serait plutôt, on aurait plutôt tendance à se mettre à côté du jeune pour pouvoir discuter avec lui, de sorte à ce qu'il ne soit pas stressé ou qu'il ne ressente pas, on va dire, une certaine forme de soumission à nous ou qu'on connaisse plus de choses que lui, alors qu'il peut très bien nous apprendre plus de choses que parfois nous savons.
Est-il difficile de créer une relation avec les professionnels du coup ?
Ça dépend donc avec quel professionnel et aussi le caractère et comment ces professionnels-là agissent. C'est pour ça que nous, en tant qu'éducateurs spécialisés, on est amené à travailler avec des équipes pluridisciplinaires, donc avec des psychologues, des animateurs et même parfois des professeurs. Et donc, on peut voir la posture de ces différents professionnels-là. Et du coup, en fait, ça dépend de notre caractère à nous et... comment on nous a appris à nous positionner, parce que parfois il y a certains éducateurs qui peuvent être très fermés et donc qui peuvent créer une relation mais pas une bonne relation. Donc il y a parfois l'écoute avec le jeune mais pas une très bonne écoute et donc parfois ça peut passer à côté de quelque chose, enfin les éducateurs peuvent passer à côté de quelque chose et même les professionnels en général.
Et dernière question, que penses-tu de la phrase « il n'y a que les grands qui nous éduquent » ?
Je pense que... par rapport à cette phrase-là, je pense que c'est totalement faux parce que tout au long de notre vie, on est amené à rencontrer des personnes parfois plus jeunes que nous, parfois plus âgées et c'est pas forcément les grands qui nous éduquent. On peut très bien apprendre des choses à des personnes plus grandes que nous comme elles peuvent nous en apprendre. Et du coup, je trouve que parfois c'est triste parce que les grands, ils sont pas forcément reconnaissants lorsqu'on leur apprend des trucs. Exemple, d'après mon expérience, lorsque l'année dernière on faisait des débats en terminale, en philosophie, parfois les professeurs, ils nous remerciaient pas lorsqu'on apprenait des trucs. Ou exemple, lorsqu'on fait des exposés, parfois on peut apporter des connaissances que eux ne connaissaient pas et on n'a pas forcément cette reconnaissance-là, alors que parfois on le fait de notre plein gré, parfois c'est facultatif et on n'a pas forcément cette reconnaissance-là. Et, du coup...
et donc du coup, en fait, tu veux faire ce métier du coup pour... Pourquoi exactement ?
Déjà, moi, j'ai jamais aimé le fait qu'il y ait des inégalités, des discriminations, des préjugés. Et je pense qu'on est tous avec des différences et c'est normal, c'est ce qui crée la société. Et du coup, j'aimerais vraiment lutter contre les inégalités, aider les personnes à s'introduire dans la société qui est vraiment pas de personnes exclues.
Et pour finir sur une note positive, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote, un petit exemple ou quelque chose qui te fait que tu veux faire ce métier absolument et...
J'ai toujours voulu travailler dans le social, mais je savais pas exactement où. Et au fur et à mesure, on va dire que j'ai été dans des centres sociaux, etc. J'ai pu faire du coup un stage avec des jeunes de mon âge, enfin un peu plus petit que moi, mais c'était dans ma tranche d'âge. Et ce qui m'a choquée, c'est que les jeunes, parfois, on a tendance à dire oui, ils écoutent pas, ils sont pas reconnaissants, etc. envers les adultes. Mais lorsqu'on leur dit de faire quelque chose,
choses, même si parfois ils veulent pas le faire avec le cœur, ils le font à contre-cœur, mais au final, à la fin, ils arrivent quand même à kiffer le moment. Et du coup, en fait, je me suis toujours dit, enfin, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, je veux vraiment travailler avec les jeunes. Et voilà. Enfin, je sais que c'est mon métier, ça sera dans le social.
D'accord, bon, ben rendez-vous dans le social alors.
Yes.
Ouais, merci beaucoup. Ouais. Nous allons continuer avec Antoine qui va nous parler de différents types de modèles d'éducation.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Santiago et Camélia qui ont cette semaine visité un lycée expérimental sur Saint-Nazaire. Donc avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter peut-être.
Je m'appelle Santiago et je viens de Couëron à côté de Nantes.
Moi je m'appelle Camélia et je viens de Marseille et j'ai 16 ans.
Votre expérience sur les réseaux jeunes, c'est votre premier réseau jeune national ?
Non, moi c'est mon deuxième, je l'ai fait l'année dernière au Frioul.
D'accord. Est-ce qu'on pourrait tout d'abord aborder un petit peu votre éducation en général, savoir comment ça s'est passé, quelle forme vous avez pu avoir, que ce soit à l'école ou dans votre famille, ou comment ça s'est organisé un petit peu, comment vous vous construisez en matière d'éducation ?
Moi je pense que j'ai reçu une éducation entre guillemets, enfin, basique, traditionnel. Enfin, je suis allé dans un lycée général et voilà.
Moi aussi, enfin, j'ai eu une éducation basique, traditionnelle, culturelle aussi. Et j'ai été dans un collège public et dans un lycée général.
Donc vous avez visité le lycée expérimental à Saint-Nazaire. Si vous aviez eu connaissance de ce projet, vous y seriez allé ? Vous y auriez étudié ?
Non. Moi, je ne serais pas y aller.
Et pourquoi ? Tu peux nous donner peut-être ton point de vue sur ce lycée ?
Parce que c'est un lycée qui est comme propre à son nom, c'est un lycée autogéré. Donc tous les élèves sont autonomes, c'est-à-dire... Bon, je ne sais pas si je dois vraiment expliquer comment il est. Hein.
Oui, tu peux, tu peux.
Mais c'est un lycée où les élèves ont plusieurs postes. Ils ont premièrement leur poste d'élève.
Oui.
C'est eux qui font leur propre cuisine, ils font le ménage. Ils sont dans un pied... vachement égal avec leur prof,
okay.
Leur meu, ils appellent ça un meu. Et moi, je pourrais pas, parce que ils arrivent à gérer tout ça, sachant qu'ils ont aussi un bac. Enfin, c'est comme un lycée qui a un baccalauréat à la fin de l'année de terminale. Mais gérer tout ça, sachant que quand t'es en cours, nous, les élèves dans un lycée basique, dans un lycée général, quand on a fini les cours, on rentre directement à la maison. Ben, eux, ils font le ménage, ils lavent les toilettes, ils...
Donc c'est plus cet aspect de surcharge de tâches et donc du coup la peur de ne pas arriver à suivre le scolaire.
Les cours,
plutôt que cet aspect collectif.
Oui, voilà, c'est ça.
Ok, Santiago, tu aurais étudié toi, peut-être ?
Oui, enfin moi, pourquoi pas. J'aime bien cet esprit de liberté, de s'autogérer, d'autonomie qu'ils ont. Il y a d'autres aspects aussi qui me plaisent dans le sens où, avec leurs profs, ils ont une certaine proximité que nous, on n'a pas. C'était très dur quand on y allait de tutoyer leurs meufs. Eux, ils n'ont aucune difficulté à ça et c'est parce que nous, on est habitués à vous voyez nos profs. Mais j'aime bien cet esprit-là. Ils mangent avec leurs professeurs, ils discutent ensemble et voilà. C'est quelque chose que j'aime pas mal. Enfin, moi, contrairement à Camélia, cette autonomie, elle me dérange pas du tout. Et puis, en plus, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de pression. Parce que oui, ils passent aussi le bac et tout. Mais ils peuvent se permettre de refaire une année sans problème pour consolider ce qui leur a peut-être manqué l'année d'avant pour passer le bac. Du coup, je trouve qu'il y a cette pression qui est en moins qu'on peut ressentir beaucoup dans les lycées généraux.
Ok, donc deux avis complètement opposés. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait avoir un mot qui résume votre semaine de réseau jeune ? Chacun un mot positif sur l'aspect, sur ce qui a pu se passer.
Découverte.
Moi, je dirais connaissance.
Super, donc il y a Roman de la Fédération Nationale des Centres Sociaux qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Donc bonjour Roman.
Bonjour.
Donc je pense que ce que vous avez entendu là, ces dernières minutes doit forcément résonner dans votre tête, puisque vous avez étudié dans un établissement un petit peu identique. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre expérience et des précisions sur le fonctionnement de pédagogique ou communautaire,
ouais, ouais, peut-être. Ouais. Alors moi en fait oui, j'étais au lycée autogéré à Paris. Il y en a deux en France je crois, donc qui sont publics, un à Saint-Nazaire et un à Paris. Okay. Bon, moi j'y étais il y a 15 ans quand même, donc ça commence à dater. Mais ouais, c'est vrai que le fonctionnement en fait il est autogéré et il y a toute une organisation démocratique avec des méthodes de décision par consensus pour que en fait tous les changements, toutes les modifications, tout ce qui est organisé soit décidé par les élèves et les profs en effet qu'on appelle MEU. En fait ils ont aboli tous ces mots qui, comme les cours, ils appellent ça des ateliers, donc les profs, les meux, ils essayent vraiment de changer un petit peu tous ces mots qu'on a l'habitude de dire au lycée. Voilà, ce système, il est posé comme ça, ça a commencé dans les années 80 et ça continue toujours. Pour autant, ils ont toujours encore quelques difficultés, notamment avec le rectorat qui a retiré 2 postes de prof au lycée de Saint-Nazaire il y a 2 ans. Okay. Donc c'est pas tout le temps évident non plus pour eux. Voilà.
Il y a quand même un aspect hiérarchique, genre un proviseur, des...
Alors non. Non, il n'y a pas de proviseur, il n'y a pas de chef en fait. Tout est géré en collectif, dans des groupes de gestion. Après, du coup, ils ont une organisation avec un, comme nous, ce qu'on pourrait appeler un peu un conseil d'administration qui est, où on retrouve des élèves et des profs, et ensuite tout est remonté à cet espace-là. Voilà, c'est organisé comme ça.
Et tout ce qui est apprentissage, pédagogie, comment est-ce qu'elle s'organise la scolarité des élèves qui étudient ?
Et ben en fait, après, il y a quand même des aspects qui sont assez classiques. Donc il y a des ateliers, ce que nous on pourrait appeler cours. Ou par thématique, donc philosophie, histoire, français, un peu de manière classique. Et à côté de ça, on a aussi des projets qui se montent, donc qui sont liés aux thématiques, mais ils ont des espaces où ils peuvent développer des projets personnels en collectif avec des profs sur ce qu'ils souhaitent faire, quoi.
Alors en naviguant sur le site du lycée de Saint-Nazaire, j'ai vu qu'il n'y avait pas de notes, donc on n'était pas noté, on ne peut pas ressortir du trimestre avec 14 de moyenne.
C'est vrai, ça nous a assez... Enfin, ça vous a marqué, vous, en tout cas, cette histoire de notes, quoi.
Oui. Bah, j'ai trouvé que c'était vachement original, j'en avais pas entendu parler. Et au début, en tout cas, c'était compliqué de s'imaginer du coup ce système sans notes, parce que nous, on a toujours eu ça. J'ai vu que pour certains, en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de notes, qu'il y ait des auto-évaluations et tout, en tout cas, eux, ça les a beaucoup aidés, ça les a soulagés, ça les a sortis du cadre traditionnel du coup qu'on pouvait retrouver et dont ils ne voulaient plus ou pas.
Dans les jeunes qu'on a interviewés, on a rencontré des profils qui étaient quand même vachement différents sur les élèves qui étaient au lycée expérimental de Saint-Nazaire, notamment une fille qui nous a dit qu'elle était en phobie scolaire. Elle avait tout arrêté, elle ne pouvait plus y aller. Et c'est vraiment ce lycée-là et le fait qu'il y ait une absence de notes qui lui a permis de reprendre un peu sa scolarité, quoi.
Ok, j'avais une dernière question que je viens d'oublier. Donc, si ça Super. Me revient, ça sera pas mal.
Mon signe astrologique, peut-être ?
Non, malheureusement non, mais...
Scorpion.
Si. Est-ce que les élèves qui sortent de ces lycées, ils ont des débouchés plus difficiles que les élèves qui sortent d'un lycée classique ? Est-ce qu'ils ont la capacité après d'aller en études supérieures plus facilement, plus difficilement ? Est-ce que l'accès, il est à peu près pareil ? Ça fonctionne comment, du coup, après les débouchés sur la suite ?
Alors les débouchés, je pense que du coup cette scolarité elle permet de savoir ce qu'on veut faire, d'avoir le choix sur ce qu'on veut faire après. Du coup en fait je pense que c'est ce que ça permet, du coup ça permet d'avoir des débouchés qu'on souhaite. Ça permet de prendre le temps d'y réfléchir, d'expérimenter justement différentes matières, différents projets pour pouvoir un petit peu avancer là-dessus.
Ok, donc si on veut aller sur une école d'ingénieur ou Sciences Po, ce sera plus un bonus qu'un frein ?
Ça sera plus un bonus, mais je pense aussi que du coup la posture des professeurs, enfin des MEU, permet d'avoir un suivi et un accompagnement qui n'est pas le même que dans un lycée traditionnel. Il y a une confiance qui se crée, du coup on a moins peur de dire les choses et on se fait accompagner vraiment différemment, quoi.
Ok, ça a été bénéfique pour vous en tout cas.
Moi ?
Oui.
Ouais, complètement.
Ok, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Un dernier mot peut-être ou non ? Non. Bon, mais merci d'être venu. Merci, merci. Roman, merci Santiago et merci Camélia.
De rien.
Et bonne fin de séjour.
Merci.
Merci beaucoup.
À vous aussi.
Merci.
Ben merci surtout à toi Antoine.
Merci.
Bon, nous sommes toujours sur les radios Prune et la Tribu. Pour conclure, j'aimerais savoir vos avis en quelques mots sur le réseau jeune, sur ces derniers jours, parce que c'est quand même le dernier jour qu'on va passer ensemble. Donc qu'est-ce que vous avez retenu de... tous ces jours passés ensemble ?
Eh bien, moi, je pense que le réseau jeune, premier que je fais, ça a permis de développer ma sociabilité, entre guillemets. Ça a permis aussi de faire des rencontres, parce que je pensais pas rencontrer autant de monde et parler avec autant de monde dans ce réseau jeune. Ça permet aussi de découvrir d'autres perspectives, d'autres centres sociaux, sachant qu'il y en a qui viennent même de Tahiti, me semble.
De Guyane.
De Guyane. Écoute, on m'a dit Tahiti, donc... Donc sachant qu'il y en a d'autres qui viennent de Guyane, ça, vraiment, ça, ils viennent de partout, de métropole et aussi d'outre-mer, donc c'est vraiment intéressant.
Oui, donc ce réseau jeune, moi j'ai trouvé, j'avais déjà fait un réseau jeune départemental, donc, mais jamais un national, donc c'est mon premier national. Et c'est vraiment super, enfin on a fait des vraiment super bonnes rencontres, et puis on a pu voir le point de vue par rapport aux éducations de plein de personnes différentes, et puis je trouve que ça a enrichi un peu mon point de vue à moi aussi, donc voilà.
Merci.
Super semaine.
Donc moi pour le coup c'était mon second réseau jeune, j'étais à Marseille sur l'île du Frioul l'an dernier, et ce qui est super intéressant c'est que ça a été deux séjours complètement différents. L'an dernier on était plus dans quelque chose pour aboutir sur une finalité concrète, cette année on était plus sur de la discussion, et c'est vrai que c'était super enrichissant de pouvoir entendre tous ces points de vue, d'avoir aussi un intervenant extérieur en Grenège qui a pu nous apporter plein de, je sais pas comment expliquer, mais plein de valeurs, plein d'idées. Et voilà, c'est aussi génial de rencontrer tant de monde. Et un peu déçu que ça soit déjà fini, mais j'espère qu'on se reverra à Lille en mai.
C'était vraiment une semaine de partage, de culture, c'était vraiment super, et c'est vraiment passé super vite.
Moi franchement, j'ai trouvé ça génial. On a pu faire plein de rencontres, comme le disait Brian. On a parlé avec énormément de personnes. Et vraiment, enfin, c'était génial, et c'est passé vraiment très très vite.
Bah, écoutez, pour ma part, j'ai vraiment grave kiffé être avec vous. Les rencontres, c'était génial. Les activités proposées, c'était aussi génial. Les débats, c'était hyper enrichissant avec plein de gens qui sont venus d'un peu partout dans la France, donc avec des conditions d'éducation différentes. Donc c'est ça qui a aussi enrichi notre point de vue. Je vous retrouve l'année prochaine sur le réseau national qui, si des jeunes sont intéressés pour participer l'année prochaine, qui se renseignent auprès des centres sociaux le plus près de chez eux. Alors on se retrouve tous l'année prochaine. Et je remercie tous ceux qui ont intervenu, qui sont intervenus sur la radio, et bien sûr tous les animateurs.
Peut-être avant de partir, une dernière phrase des porteurs de parole.
Deux dernières phrases qu'on fera, donc que je ferai l'avant-dernière phrase, et Cathy vous donnera la note de fin. Donc la dernière phrase que je ferai pour ma part, c'est celle qui vient de Thierry, qui a 65 ans, et il a dit « L'éducation, quand on est adulte, on la transmet ».
Et enfin, dernière phrase de Marielle et Béné, 55 ans et 52 ans. L'éducation, c'est toutes les rencontres qu'on a fait dans notre vie. Voilà, donc des paroles de passants qu'on a interviewés cette semaine.
Cette fois, c'est vraiment la fin, donc je remercie tous ceux qui ont participé au réseau jeunes, que ce soit les animateurs ou les jeunes, et toute l'aide extérieure qui a été mise en place pour organiser ce réseau jeune, dont la radio. Donc je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet de radio. Ben, merci beaucoup et au revoir et à l'année prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis pas français comme un soldat de l'armée. La Marseillaise, j'ai toujours pas la chanter. J'aime pas les drapeaux, les képis, les calots, les batailles de bateaux, les rafales de Dassault. Moi, je suis enraciné à ma manière. Je vous embrasse avec la langue de Molière. J'ai des origines et j'en suis fier. C'est les mêmes que le fer de la Tour Eiffel. En plus je retiens jamais les dates, ça fait chier quelques candidates, mais je sais que les allocs de la cave, ça tombe le lendemain du 4. Ne mets pas trop de pression, j'ai déjà tout un tas de problèmes. L'hymne de la nation, je vais le réécrire moi-même. Je me sens légitime à écrire un joli poème. Depuis que le premier boulanger de France peut s'appeler Mohamed. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Bientôt le jour de gloire, aux armes, etc. Bientôt le jour de gloire, mais j'arriverai pas armé. Faut plus de cran pour le mariage que pour se faire la reggae. La musique est mondiale, mais le texte est français. J'ai le cœur étranger en forme hexagonale. Ni de marinière, ni de baguette, ni de béret. Ni de bannière, ni de gâchette pour me libérer. J'mange pas de cochon, mais j'ai l'accent d'un vrai cauchois. Mais j'viens aussi d'Afrique du Nord comme Claude François.
Allô aux enfants de nos quartiers, ne nous laissons pas dénigrer. Même la statue de la liberté a le statut d'immigré. Aucun de nous ne va remigrer du Pas-de-Calais aux Pyrénées. On est inscrit dans leur pédigré. Ne mets pas trop de pression, j'ai déjà tout un tas de problèmes. L'hymne de la nation, je vais le réécrire moi-même. Je me sens légitime à écrire un joli poème. Depuis que le plat préféré de France, c'est le couscous du Maghreb. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Bientôt le jour de gloire, aux armes, etc.